Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes dans le livre journal de Géopolitique Profonde. Je remercie Virginie Ninivlam à la technique. On est content de la retrouver. Je suis content de vous retrouver après une petite pause de 2 semaines. Nous sommes en direct sur Radio Courtoisie pour ce livre journal de Géopolitique Profonde. Et je remercie donc Virginie pour la réalisation de cette émission. Je remercie, je pense qu'il doit être là, Patrice, au standard, et peut-être Sylvie. En tout cas, je les aurais remerciés. Ils ne me reprocheront pas de ne pas l'avoir fait s'ils sont là. Et s'ils ne sont pas là, vous voudrez bien m'en excuser. Si nos bénévoles sont présents, vous pouvez bien évidemment appeler le standard de Radio Courtoisie et vous pourrez ainsi poser vos questions, faire vos remarques et autres observations qui nous seront bien sûr transmises en cours d'émission. Nous passerons un temps avec notre invité pour répondre à vos questions, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Voilà pour les premiers remerciements. Je serai assisté durant cette émission, comme c'est pratiquement toujours le cas, eh bien par Lara Stam. Je pense que Lara, vous m'entendez. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs.
Ah bon, ben voilà, vous êtes là Lara, c'est très bien. Notre invité du jour, il est déjà présent, donc nous allons le saluer avant de débuter cette revue de presse auquel il pourra, s'il le souhaite d'ailleurs, participer. Il s'agit de l'économiste Philippe Murer. Bonjour mon cher Philippe.
Bonjour Nicolas, bonjour Lara et bonjour à tous les auditeurs qui se sont levés tôt ce matin.
Oui, voilà. Oh, il est déjà 9h, tout va bien. On est habitué, nous, sur les matinales de Géopolitique Profonde, d'embaucher à 7h. Alors, si nous avons certains de ceux qui écoutent ces matinales, ils sont déjà, à mon avis, bien réveillés à 9h. Pour nous, c'est grasse matinée. Mais bon, chacun sa vie. Très bien, merci Philippe. Donc, ben, tout le monde est là, c'est formidable. On va pouvoir commencer cette petite revue de presse. 3-4 thèmes, comme à chaque fois que je vous ai sélectionnés. Plus polémiques les uns que les autres, pas le premier, hein, parce que, et ça là-dessus, Philippe Murer va pouvoir aussi intervenir, puisque je commencerai par le thème principal, qui est aussi un des thèmes de cette émission, le titre de cette émission d'ailleurs, chers auditeurs. Je manque à tous mes devoirs, je ne vous l'ai pas expressément donné, même si Virginie, elle l'a fait. Eh bien, c'est la défaite de l'Occident, États-Unis, Iran. C'est cette défaite de l'Occident qui va au-delà de la défaite des États-Unis, de Trump, et qui se profile à l'horizon. Il y a des négociations à Islamabad, au Pakistan, qui débutent ce matin, voilà, avec le vice-président américain J.D. Vance, avec le ministre des Affaires étrangères iranien, entre autres, le président du Parlement iranien aussi, qui seront présents pour l'Iran. Voilà un petit peu, et puis dans les négociateurs, vous avez toujours le duo des Dupont et Dupont, Jared Kushner et Steve Witkoff pour les Américains, mais auxquels s'ajoutent évidemment, ils n'ont que très peu confiance en ces deux individus, s'ajoutent donc J.D. Vance, le vice-président qui a accepté, même si on le savait, très hostile à l'origine. C'est un article, je crois, du Wall Street Journal qui expliquait comment Trump avait accepté d'engager le conflit sur, finalement, eh bien, une escroquerie, une farce de Netanyahou qui avait réussi à lui faire croire que cette guerre allait durer 3 jours, qu'il renverserait le régime et qu'il serait accueilli dans les rues de Téhéran avec la liesse populaire. Il en est loin, Trump, c'est ce qui explique d'ailleurs ses pétages de plomb assez conséquents. Il en a encore fait dernièrement, on rappelle le dernier, enfin les derniers. Il fallait ouvrir ce foutu détroit d'Ormuz, et puis ensuite il avait prophétisé la fin d'une civilisation, bien sûr la civilisation perse-iranienne. Donc, il s'est un petit peu calmé cette fois-ci, mais on sent qu'il est toujours joueur de poker, bluffeur. Il annonce qu'il prépare ses meilleures armes. Le nombre de militaires, d'ailleurs, prêts à intervenir au sol augmente. Est-ce qu'il n'a pas à l'esprit, on n'en sait jamais, rien avec Trump? Est-il vraiment dans la volonté de ne plus faire la guerre avec l'Iran? En a-t-il eu assez? Ou bien est-il prêt à aller au-delà avec non seulement des bombardements massifs, mais peut-être une intervention terrestre? C'est un petit peu le thème premier sur lequel je voulais vous entendre, Lara, et puis ensuite Philippe. Lara.
Bah écoutez, Nicolas, c'est une défaite pour une raison très simple, c'est que nous sommes partis avec deux objectifs affichés, même s'ils étaient d'une façon assez aléatoire, hein, c'était renversement, changement de régime, et la récupération de l'uranium enrichi. Il n'y a pas eu de changement de régime malgré une décapitation, une frappe par décapitation du guide suprême Khamenei, et le régime n'a pas vacillé du tout. C'est d'ailleurs inédit et c'est peut-être un apprentissage aussi, quelque chose à étudier plus profondément pour d'autres pays, la façon dont ils ont construit leur pouvoir qui n'est pas pyramidal, qui se compose en mosaïque, c'est-à-dire que chaque élément peut être vite remplacé de manière à ne jamais rompre en fait une gouvernance et rester extrêmement fidèle à une ligne. Ça, c'est le premier des objectifs. Le second objectif, lorsqu'on nous a vendu le sauvetage du pilote, c'était une tentative terrestre de récupération de l'uranium. Aujourd'hui, on n'a nul doute quant aux observateurs autres que français partout dans le monde. On sait aujourd'hui que c'était une opération terrestre avec une tentative de récupération de l'uranium enrichi, les 460 kilos fameux qui posent problème à Israël et qui empêchent de dormir Netanyahou. Et ça, c'est un échec également. D'ailleurs, un échec qui, malgré son apparente, en plus son apparence bien visible, avec des avions qui ont été brûlés au sol, frappés par les Américains ou d'autres, mais en tout cas, ils ont été bel et bien, les appareils étaient détruits. Malgré cela, Donald Trump nous a annoncé que c'était une magnifique opération, la meilleure du monde, parce qu'on a sauvé des pilotes. On sait aujourd'hui que ce n'était pas du tout une opération de sauvetage de pilotes. Par ailleurs, ils en ont profité pour les récupérer, je veux bien croire, bien qu'ils ne nous ont toujours pas montré les pilotes. Et ce n'est pas dans la tradition américaine que de ne pas montrer le héros sauvé. Normalement, on nous le montre sous les tuyaux, sur son lit d'hôpital, le héros est là et toute l'Amérique se glorifie de ce sauvetage. On ne sait pas en plus combien d'hommes les États-Unis ont perdu dans cette opération. Il y a au moins il y a des traces de restes humains dans un des cockpits d'appareils détruits, mais voilà. C'est annoncé comme une opération audacieuse et glorieuse. Il n'en est rien, donc ces deux objectifs n'étant pas remplis, cette opération, cette guerre, elle a déjà échoué.
Et puis vous avez finalement l'arme de dissuasion massive iranienne, parce que si les Israéliens ont l'arme nucléaire, les Iraniens, eh bien eux, ont le détroit d'Ormuz.
Exactement, le détroit d'Ormuz qui n'est qu'une conséquence de ce que a commencé à faire l'Occident, à s'attaquer dans les eaux internationales aux bateaux, aux pétroliers qui transportaient en fait le pétrole russe. Ils ont ouvert une brèche dans la façon d'interpréter le droit maritime international. Et l'Iran en a profité, donc pour moi, les Russes ont trouvé une arme de dissuasion avant le nucléaire, c'est-à-dire avant le palier définitif fatal, c'est l'Oreshnik. Et pour moi, les Iraniens ont trouvé le détroit d'Ormuz, qui est leur Oreshnik à eux. J'ouvre, je ferme, je fais quand je veux. Et c'est implacable parce qu'aucune société ne peut engager ses bateaux dans une zone incertaine. L'assureur ne suit pas. C'est absolument pas possible de naviguer dans des eaux incertaines et ça le restera selon le désir des Iraniens, malgré toutes les annonces que fera Donald Trump en face.
Bien, oui, bah écoutez, ça, je crois que tout le monde est assez d'accord sur ce point. Même LCI, même tonton Iakovlev, le général, le bon général Iakovlev, grand russophobe devant l'éternel, que je trouve un petit peu israélophobe. Attention au tonton Iakovlev qui pourrait finir par tomber sous les coups de la loi Yadan. Alors d'ailleurs, la loi Yadan, je le dis en aparté, la pétition a atteint et dépassé les 500 000 signatures et il y aura un débat public à l'Assemblée nationale sur cette loi qui tend à confondre, à amalgamer antisémitisme et antisionisme à tel point que toute forme de critique de l'État d'Israël serait proscrite et susceptible d'une peine de 5 ans de prison et d'une grosse amende. Bon, ça, on a l'habitude des amendes en France, évidemment. On rappelle ce pays qui est liberté, égalité, fiscalité, la belle trinité de Marianne, de la République, avec des amendes à la clé, bien sûr. C'est à peu près d'ailleurs pour le citoyen lambda, le seul rapport qu'il a avec la fameuse République, c'est-à-dire, eh bien, quand il reçoit par la poste une belle Marianne qui lui annonce PV, impôts, redressement fiscal en tout genre. Et il paraît, attention, qu'actuellement, eh bien, les guêpes de Bercy sont particulièrement excitées, piquent à tout va, ils ont besoin et ils vont à tous les râteliers, hein, ils mangent à tous les râteliers, ils font les fonds de caisse. C'est vous, Français, qui trinquez, bon moujon, bonne moujonne, allez, tout va bien, continuons comme ça. Philippe Murer, sur le sujet de l'Iran, des États-Unis, est-ce que vous partagez l'avis de Lara, qui est que, eh bien, vous avez une défaite stratégique des États-Unis aujourd'hui, qui est en tout cas en échec au Proche et Moyen-Orient?
Oui, je partage l'avis de Lara. Alors, je voulais commencer parce que, par dire que je ne suis pas tiers-mondiste, pro-iranien,
Non.
pro-islamiste, parce qu'il y a des gens qui nous disent ça. Moi, ce que je défends, c'est les intérêts de la France. Pour défendre les intérêts de la France, il faut factuellement faire une analyse factuelle de ce qui se passe dans cette guerre. En fait, c'est une défaite stratégique parce que l'armée la plus puissante du monde, des États-Unis, qui dépense 1 000 milliards de dollars chaque année pour ses armes, pour son armée, en fait, est complètement bloqué. Il n'y a pas une victoire de l'Iran, mais il y a une situation complètement bloquée. L'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz, donc l'artère énergétique mondiale, en fait, et les États-Unis sont incapables de le débloquer, tout simplement parce que les Iraniens ont tout ce qu'il faut, ont travaillé sur leur géographie, ils ont un petit détroit à tenir, ils ont tout ce qu'il faut en termes de drones, en termes de missiles, et ces drones et ces missiles sont enterrés et donc sont impossibles à détruire par l'Amérique. C'est ça qui est fondamental. C'est cette intelligence stratégique des Iraniens qui ont tout enterré parce qu'ils savaient que sinon, tous leurs lanceurs seraient détruits. Et on pourra détruire des montagnes même avec les plus grosses bombes possibles. Donc ça, c'est très clair. Donc tout est complètement bloqué. L'Iran tient le détroit d'Ormuz. Et peut faire ce qu'il veut avec l'énergie mondiale. Il peut décider de prendre 2 millions de dollars par bateau et les bateaux seront contents de pouvoir sortir du golfe Persique avec leur cargaison. Il peut proposer que cette cargaison soit que les bateaux peuvent sortir si le pétrole est payé en yuan. En fait, et il met ainsi en échec les États-Unis et le pétrodollar. Donc tout est bloqué. Tout étant d'autant plus bloqué que l'Iran, c'est un pays qui est quand même 3 fois plus grand que l'Irak, avec 90 millions d'habitants, une armée de 650 000 personnes, et surtout des montagnes partout. Donc ce n'est pas là où la puissance américaine, les chars, les tanks, qui sont très supérieurs à la puissance mécanique américaine, pourra s'exprimer. Et alors quelque chose de fondamental qu'on a oublié ces derniers temps, c'est avec le temps qui avance, on rentre dans les périodes extrêmement chaudes dans le golfe Persique. Donc des troupes au sol, ça devient complètement impossible parce que quand il fait 35 degrés, 38 degrés, voire 5 à l'ombre, donc 50 degrés au soleil, ça veut dire qu'il fait 80 degrés dans les véhicules. Et tous les analystes militaires disent qu'à ce moment-là, ça devient quasiment impossible d'aller attaquer. Donc les troupes au sol pour débloquer la situation semblent impossibles. Il reste peut-être 15 jours pour le faire. Après, ça sera terminé. Donc, tout est bloqué. C'est donc une défaite stratégique de la première puissance militaire mondiale qui montre qu'elle n'est pas capable de débloquer la situation, qu'elle est partie en guerre contre l'intérêt. C'est aussi une défaite morale, ça il faut le dire. et ça fait mal au cœur de le dire, mais c'est une défaite morale, parce que quand on a entendu Trump mardi expliquer qu'il allait annihiler une civilisation qui ne pourrait pas revenir à la vie, je crois que ça nous a fait tous extrêmement mal au cœur d'entendre ça, parce que c'est moralement intolérable de menacer implicitement un pays de l'arme atomique pour rayer un pays de 90 millions d'habitants. Donc maintenant, les États-Unis sont bloqués, les négociations sont mises à place, on verra ce qui va en sortir.
Merci Philippe Murer, on reviendra dans notre entretien après cette revue de presse justement sur ces différents points. Merci beaucoup. Allez, on continue avec...
Nicolas, je voulais rajouter quelque chose aussi par rapport au détroit d'Ormuz. Lors de la guerre de 12 jours, le Parlement iranien avait voté la fermeture du détroit d'Ormuz et c'est Ali Khamenei, le guide suprême, qui avait refusé d'appliquer cela. Il faut quand même rappeler que c'est une directe conséquence de la guerre et des dommages que subit l'Iran en termes d'infrastructures, etc., qu'il s'est permis de faire ce qu'il pouvait faire avant et qu'il n'avait jamais fait. Faut rappeler ça. C'est pas parce que tout à coup ils sont ils ont été poussés dans leur retranchement en termes de mollesse de décision. Et ils ont supprimé ceux qui étaient encore pour les solutions moins radicales. Voilà.
Bien, merci Lara. Alors Lara, je sais que c'est un sujet que vous aimez parler des voyages vers la Lune. Eh bien, nous avions Artemis II. Artemis II, c'était plusieurs cosmonautes qui ont battu le record, qui sont allés pour des cosmonautes, des êtres humains le plus loin de la Terre, puisqu'ils sont allés explorer la face cachée de la Lune. Ils sont allés en orbite. Ah, ils n'ont pas atterri, certes. Hein, ça, c'est ce qu'on faisait il y a 40 ou 50 ans.
À l'Uni,
voilà, à l'Uni. Hein. Mais par contre, ils sont allés fort loin, donc avec la mission Artemis II, du nom, évidemment, de la sœur d'Apollon, une déesse de la chasse, mais une déesse lunaire, ce qui explique le nom de cette mission. Et Artemis II, eh bien, est allé fort loin. Prouesse technologique, ils sont revenus à toute allure, hein, c'est plus rapide encore qu'un missile hypersonique de Vladimir Poutine. Lorsqu'ils reviennent et qu'ils leur entrent dans l'atmosphère terrestre, eh bien c'est une réussite, les cosmonautes sont revenus sains et saufs. Qu'est-ce que vous inspire ce nouveau programme de la NASA ?
Max et Nicolas, j'espère que c'est pas une nouvelle farce. Je pense que cette fois-ci, ils ont réellement fait quelque chose aux côtés de la Lune, contrairement à tout ce qui nous a été annoncé, parce que à croire les médias, à croire aujourd'hui le récit tel qu'il nous est dicté, en 69, on a su aller sur la Lune, à l'unir et repartir, et que maintenant, dire qu'en 2028, ils retourneront sur la Lune est presque fantastique comme nouvelle. Donc, encore une fois, la vérité prend l'escalier, mais elle arrive toujours à atteindre son but. Donc, ils nous ont raconté des histoires sur ce voyage sur la Lune, et maintenant, bon, espérons qu'ils vont y arriver enfin. Sachant qu'il n'y a toujours pas de technologie qui permette l'alunissage correct sur la Lune. Encore moins la propulsion nécessaire pour repartir ensuite vers la Terre. C'est-à-dire que ça peut être un one-way ticket, permettez-moi de dire ça même sur Radio-Canada. Mais quand même, voilà, le ticket dans un seul... le ticket aller. Voilà. Ticket aller. Mais c'est incroyable que même les médias français aujourd'hui disent ce n'est pas trop audacieux que de croire qu'en 2028 ils pourraient faire un voyage. C'est comme si on nous disait en 2080, des iPhones, on pouvait faire des vidéos avec, mais c'est impossible. Quand est-ce qu'on aura enfin cette technologie pour pouvoir réitérer les exploits?
Et puis j'espère qu'on aura la ligne directe, hein, qu'on pourra avec notre iPhone téléphoner aux astronautes, hein, comme on avait vu le président américain décrocher son petit téléphone à fil et parler avec membres des missions, autant de choses.
Et rappelez-vous la phrase qui reste aujourd'hui, la phrase « petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité », tout ça nous a été vendu, mais le récit hollywoodien, incroyable. Moi, je sais aujourd'hui, alors que j'y ai cru, alors que pour moi, c'était l'homme est allé sur la Lune. Aujourd'hui, on là, voit bien que...
La Russie semble être sortie de sa torpeur sur le sujet, parce qu'on ne peut pas dire que les Russes avaient beaucoup nié ce voyage sur la Lune. Mais aujourd'hui, je crois que dans les médias russes, il y a beaucoup plus de... Ils traitent ça avec une certaine ironie et ils contestent finalement que l'homme ait pu aller sur la Lune.
Complètement. Mais encore une fois, pour revenir dans le contexte de la conquête spatiale soviétique, elle coûtait très cher et il n'y avait qu'un seul partisan de cette conquête qui était Khrushchev, qui était à ce moment-là écarté du pouvoir. Il fallait tout faire pour arrêter la conquête spatiale en disant « ça y est, les Américains nous ont dépassés, on s'oriente vers d'autres investissements, etc. » Et Brejnev a été personnellement remercié par les Américains par des achats, enfin par un cadeau d'une limousine première en URSS à l'époque et d'une usine qui s'est mise en construction grâce aux Américains sur le territoire soviétique. Donc c'est une affaire aussi de corruption. Ils ont acheté l'accord des Américains l'accord des Soviétiques pour ne pas démentir cette farce. Voilà.
Cette farce, selon vous, si Philippe Murer veut dire un mot sur la mission Artemis 2, il peut bien sûr. Hein.
Je préfère que les hommes, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que je préfère que les hommes se fassent de la conquête spatiale plutôt que de la conquête militaire en détruisant toutes les infrastructures énergétiques. Et je pense que l'homme ayant un besoin de conquête au fond de lui, la conquête spatiale est quelque chose de naturel et quelque chose de plutôt positif. Donc, voilà, je donnerais plutôt un mot positif là-dessus.
Très bien, merci Philippe. Troisième sujet, Orban, les élections en Hongrie, eh bien c'est ce week-end. On peut lire dans la presse française un certain nombre d'articles, tous plus mal intentionnés vis-à-vis de Viktor Orban. Ce sont les mêmes qui pleurnichent et font annuler des élections parce qu'ils parlent d'ingérence russe, bien sûr, dans un certain nombre d'élections. Eh bien, depuis des semaines et des semaines, toutes les mauvaises fées que compte l'Europe se penchent sur le berceau d'Orban pour essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, pour essayer de le faire battre. L'ingérence européenne, l'ingérence française, l'ingérence ukrainienne, on a appris que le mendiant Zelensky eh bien, utilise notre argent, l'argent du contribuable, l'argent que le fisc racle, hein, il racle les fonds de tiroir, eh bien, pour aller le donner à Zelensky, qui lui le donne à l'opposition hongroise, en tout cas une partie, l'argent qu'il ne se met pas dans les poches, il en distribue une partie à l'opposition hongroise pour faire battre Orban. C'est l'homme à abattre et l'ingérence européenne bat son plein. Ils n'en sont que plus détestables, les van der Leyen, les Macron, les Jean-Noël Barrot, de pleurnicher contre de pseudo-ingérences russes, alors qu'ils sont les premiers à le faire concernant Orban, le reprochant entre autres au ministre des Affaires étrangères du gouvernement Orban en Hongrie d'avoir communiqué des secrets défense à son homologue russe. Le ministre des Affaires étrangères russe. Qu'est-ce que vous en pensez, Lara ?
Bah, écoutez, Nicolas, je rappelle qu'aucune mesure n'a permis d'alléger les sanctions envers la Russie, que bien mauvais espions qu'ils avaient les Russes pour arriver au résultat qu'ils ont aujourd'hui. Donc, enfin, blague à part, c'est juste ridicule. C'est insupportable que de voir qu'un dirigeant qui pense au bien-être de ses concitoyens, c'est-à-dire une ressource énergétique pas chère et stable et promise par la Russie, qui souhaite travailler sur cette ressource plutôt que d'appauvrir sa population en achetant du GNL américain quatre fois plus cher. Bah, écoutez, c'est pas un bon dirigeant à leurs yeux. À mes yeux, c'est un excellent dirigeant qui pense à son peuple. C'est un véritable patriote. Maintenant, on verra. On s'est souvent trompé avec des patriotes lors de ces dernières élections. Mélanie est une énorme déception, sans parler de Trump avec ses Avengers, etc. C'est juste, voilà. que le peuple hongrois choisisse ce qu'il y a de mieux pour lui, enfin, comment je vois cette élection depuis la France.
Un pronostic ?
Non, je ne ferai pas de pronostic, même si je suis persuadée qu'il va gagner, mais on est à l'abri de rien aujourd'hui avec les Européens.
Il n'y a pas de machine à voter, je crois, en Hongrie. Ces fameuses machines à voter, qui imaginez les machines à voter en Hongrie recyclées de la ville du Havre qui voterait Édouard Philippe aux élections hongroises. C'est extraordinaire. Il était donné battu, Édouard Philippe. Hein, et donc, depuis, on fait toute une campagne sensationnelle en sa faveur. Hein, c'est un peu le candidat du système, celui qui doit succéder pour l'oligarchie.
L'oligarchie
mondialiste. Voilà, et Édouard Philippe, hein, le fantomas de la vie politique française, frappé d'alopécie, entre autres, on sait bien que les machines, on aime les machines. On avait vu en 2022 et 2017 aimer Emmanuel Macron. On n'en est pas surpris, et elles aiment aussi Édouard Philippe. Alors, peut-être un mot, Philippe Murer, sur cette élection qui est importante pour les souverainistes, pour le souverainiste que vous êtes, un vrai souverainiste qui est menacé d'être battu, usure du pouvoir ou pas, avec Orban en Hongrie.
Alors, Orban, on ne peut pas dire qu'il soit souverainiste, il ne cherche pas à ce que la Hongrie sorte de l'Union européenne et retrouve toute sa souveraineté nationale. Par contre, c'est clairement un patriote qui défend les intérêts des Hongrois, comme l'a dit Lara, en baissant les taxes, en ayant des taxes assez basses pour que l'essence, l'électricité ne soit pas trop chère en Hongrie. C'est quelqu'un qui défend la paix entre la Russie et l'Europe et non la guerre. Et c'est évidemment dans l'intérêt des Européens, qui défend le fait que les Européens se fournissent à nouveau en énergie russe, et on voit bien le besoin urgent qu'on a de se fournir en énergie pas chère. Donc voilà, il a plein de qualités et il obéit d'abord à son peuple et non à l'Union Européenne, avec lequel il est sans arrêt en bisbille. C'est vrai qu'on voit le côté horrible de l'Union Européenne, qui n'a rien fait pour que l'Ukraine débloque le pipeline de pétrole vers la Hongrie, posant des problèmes à Orban pendant cette élection. C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que l'Ukraine, on donne 90 milliards d'euros par an pour qu'elle survive, et elle coupe le pétrole vers l'Europe. C'est quand même extraordinaire de laisser faire ça. Donc c'est bien entendu pour nuire à Orban. Il y a eu toute la campagne aussi, toute la campagne contre Orban qui a été menée par l'Union européenne, et il y a aussi les ingérences de l'Union européenne par l'application du DSA sur les réseaux sociaux pour enlever les messages pro-Orban, en tout cas pour le défavoriser. Donc on voit que c'est complètement scandaleux, parce qu'au moment où cette Union européenne n'arrête pas de parler d'ingérence étrangère, elle-même passe son temps à faire des ingérences dans les élections d'un pays qui normalement est souverain, qui est la Hongrie. Au niveau des résultats, on n'en a aucune idée. Les sondages donnent Orban 8 points derrière. Beaucoup de gens disent « attention, ces sondages sont peut-être un peu trafiqués ». On verra le résultat des élections, mais évidemment qu'on souhaite qu'Orban reste au pouvoir, parce que c'est un point de blocage vers la guerre sans fin entre l'Ukraine et la Russie, qui n'est ni bonne pour l'Ukraine, ni bonne pour l'Europe.
Merci Philippe Murer. Rien à ajouter, Lara, sur ce point ?
Non, tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord.
Très bien. Alors, dernier point de cette revue de presse, il s'agit de nos autoroutes. Tiens, on va parler un petit peu de cet enfer qui est fait aux automobilistes, multiples et variés. Hein, ça va de la voiture électrique au radar automatique. Voiture électrique, donc on a eu le plan d'ailleurs, le cornu, le plan qui tend à développer l'électricité. On veut les deux tiers des voitures électriques d'ici 2035, alors que et un tiers d'essence, et c'est-à-dire l'inverse de ce que nous avons aujourd'hui. Même si on se demande de plus en plus comment on va avoir assez de bornes pour recharger toutes les voitures, ça paraît être une histoire de corne-cul, et des pays, petit à petit, dont l'Allemagne, la France étant le bon élève de l'Europe, le bon élève de toutes les catastrophes européennes possibles et imaginables, l'Allemagne, on sait, et l'industrie allemande freine des quatre fers pour conserver le plus longtemps possible des moteurs thermiques, des bons moteurs thermiques, et oui, qui fonctionnent avec des hydrocarbures, avec de l'essence. Quelle horreur, qui n'a jamais été aussi chère, dont on nous explique d'ailleurs, mais ça on verra ça tout à l'heure avec Philippe Murer, que les prix ne reviendront jamais à la situation hantée. On se demande encore d'ailleurs pourquoi. Mais moi j'avais envie de vous parler de deux éléments sur l'enfer fait aux automobilistes. Ah, quand même, c'est vrai que c'est la première fois que je suis à nouveau en direct depuis les élections municipales, et donc je peux dire tout à fait ce qu'est ma joie de savoir Anne Hidalgo n'être plus maire de Paris. Est-ce qu'Emmanuel Grégoire, c'est mieux pour autant? C'est ce que j'avais dit en disant ça ne peut pas être pire que notre drame de Paris, qu'Anne Hidalgo. Je sens qu'il est mal parti, Emmanuel Grégoire, puisqu'il commence à nous proposer, ou en tout cas, il a laissé les journalistes le dire, l'éventualité, tenez-vous bien, d'un périphérique à 30 km/h. Car 50, c'est encore bien trop rapide. Il veut autoriser dès le mois de septembre les vélos sur le périphérique, donc, et puis et en faire une belle coulée verte. Donc, prochainement, eh bien, il n'y aura plus de périphérique du tout.
Est-ce que tu plaisantes, Nicolas ?
Pardon ?
Tu plaisantes, Nicolas, ou c'est vrai ?
Alors, au début, j'ai cru que ce 30 km/h sur le périphérique était un poisson d'avril, un poisson de 1er avril. Et je me suis rendu compte que pas du tout, on en parle encore aujourd'hui. Il y a eu une longue interview dans un canard parisien d'Emmanuel Grégoire. Et alors, le journaliste lui dit « Mais alors, est-ce que c'est vrai ces rumeurs que vous voudriez, peut-être dès le mois de septembre, mettre le périphérique à 30 km/h ?» Parce qu'il disait « je veux que les vélos puissent aller sur le périphérique, je veux du vert, je veux de la nature, des arbres sur le périphérique. » Et donc 30 km/h. Et là, Emmanuel Grégoire a dit aux journalistes eh ben ça, c'est vous qui l'avez dit. Voilà. Ce qui veut dire qu'en effet, il partage cette idée, cet objectif de 30 km/h sur le périphérique. Vous avez quelque chose à en dire, Philippe?
Ah oui, ces gens sont complètement dingues, quoi. Ces gens sont complètement dingues. Ils vont tuer Paris, les commerces dans Paris qui sont déjà en grande difficulté. C'est ça. Là, s'ils mettent le périphérique, voilà, ça va tuer la vie. En fait, on est en train de tuer la vie dans les grandes villes françaises. Et je trouve ça incroyable que les Parisiens aient réélu Emmanuel Grégoire. La dernière fois qu'Anne Hidalgo a été réélue, on pouvait dire « bon, c'est le Covid, les gens ont eu peur de se déplacer ». Alors qu'elle avait déjà fait de Paris un désastre, franchement. Et là, c'est incroyable qu'ils aient réélu leur propre bourreau. Il y a quelque chose qui m'échappe.
Oui, c'est bien ça. Lara, quelque chose sur le périphérique à 30 km/h, qui d'ailleurs, alors on s'en désole, ceux qui y sont contre. Bon, alors nos moujons, semble-t-il, ils ne sont pas trop possibles, parce qu'il y a une pétition, justement. Alors non, la pétition, c'est sur autre chose, on va y revenir après. Mais en tout cas, 30 km/h, ça veut dire changer à nouveau les panneaux. Hein. On est de 80, enfin 90, 80, 70, 50. On va bientôt, bah oui, hein, on sait qu'il y a une énorme corruption hein, derrière l'achat par les collectivités territoriales des panneaux de limitation de vitesse. C'est pas nouveau. On avait eu ça pendant les Gilets jaunes, lorsqu'on savait pas trop. 90, 80, vous savez, sur les routes nationales. C'était Édouard Philippe. Hein. On se rappelle que c'était Édouard Philippe à l'époque, mais bon, c'est vrai que le moujon a peu de mémoire. Et donc, notre moujon, eh bien, ça va lui coûter fort cher, parce qu'il va falloir aussi re-régler les radars, hein, puisqu'à chaque fois, évidemment, la préfecture de police de Paris, Madame Pécresse, font les gros yeux en disant non, 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 non. Mais finalement, on accepte de passer à 50 km/h, de régler les radars à 50. Évidemment, gling, 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 c'est comme le bandit manchot. On a plus rapidement les 3-7 hein, quand on est à 50 que quand on est à 70 ou 80. Et alors, je ne vous dis pas à 30 km/h lorsqu'on aura du mal à passer la deuxième en disant est-ce que je reste en première pour être sûr d'être à 30 parce que vous aurez des radars partout. C'est ça, en plus, des zones à 30, ça existe. Mais alors, en plus, truffées, hérissées de radars pour être sûr de bien pouvoir attraper l'automobiliste. Ils en pensaient quoi, Lara ?
Ah, vous avez tout dit, hein, c'est tout y est, la corruption, l'idéologie malveillante envers tous ceux qui composent le tissu économique. C'est une malveillance envers ceux qui composent le tissu économique, envers ceux qui font vivre ces grandes villes. Paris, mais c'est d'une tristesse. Je pense aux taxis, je pense aussi. Enfin, on est passé, je crois qu'il ne reste plus que 4000 taxis sur Paris. Cette profession a été tuée. Et puis voilà, mais que vont-ils faire les personnes qui ne peuvent pas se déplacer autrement qu'en voiture, les personnes un peu âgées, il va falloir partir, quitter Paris. Ben voilà, c'est une forme d'apartheid entre bobos. On s'installe entre bobos et on est bien à vélo à Paris, hein. Rappelez-vous Dieu d'Assin.
Oui. Absolument. Alors, la dernière nouveauté hein, pour l'enfer routier, vous savez, c'est qu'on a décrété, parce que évidemment la République le dit, l'âge sombre du Moyen-Âge, eh bien ces péages étaient moyenâgeux, les péages sur les autoroutes, hein, avec les concessionnaires, Eiffage et compagnie. Donc on a décidé qu'il n'y aurait plus de péages, petit à petit. Alors c'est déjà un peu vrai sur la 14, sur certains tronçons d'autres autoroutes, et il n'y aura plus de péages, c'est-à-dire que vous ne paierez plus avec votre carte bleue, et vous ne vous arrêterez plus. Donc on nous a expliqué que c'était formidable, parce que déjà c'était laid, hein, on sait que les Français aiment ce qui est beau, ah c'est beau, une autoroute sans péage probablement. Donc il y a une pétition de gens qui sont hostiles et très violemment hostiles au fait de retirer ces péages et de scanner directement, c'est-à-dire que vous passez, hein, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il n'y a plus de péage que vous n'allez plus payer, vous paierez tout autant, vous paierez peut-être même plus. On ne sait jamais parce qu'il faut quand même faut mettre tous ces scans, il faut y aller, enfin c'est pas simple. On va peut-être même devoir une petite augmentation supplémentaire. Hein, il faut savoir que les Français prennent de plus en plus les nationales. Hein, vu le prix et vu le prix de l'essence, et en plus ils sont obligés de payer ces rançonneurs d'Eiffage et compagnie, de toutes ces concessionnaires, ils n'y arriveront pas. Et donc, on trouve ça formidable de petit à petit généraliser la fin des péages. Donc vous avez, hein, il faut le savoir, quand vous êtes sur l'autoroute, vous n'êtes pas dispensé de payer, vous avez 3 jours pour payer. Pas un jour de plus, 3 jours pour payer. Alors au début, je me souviens, parce que j'avais suivi le dossier, il y a à peu près un an sur la 14, en disant, oui, 3 jours, mais vous inquiétez pas, nous serons larges. Si vous ne payez pas dans les 3 jours, il n'y aura pas d'amende, pas tout de suite. Hein. On vous laissera un large délai pour pouvoir payer. Je sais que les Français sont honnêtes, ils finiront par payer. Mais ça, c'était il y a 6 mois, il y a un an, c'est terminé. Maintenant, au bout de 3 jours... c'est tout de suite 90 euros. Donc, si vous avez un petit péage à 2,50 euros, non, il vous en coûtera 90 euros. Et si vous continuez à oublier, parce que c'est la plupart du temps un oubli, ce n'est pas grave, au bout de quelques mois, ce sera plus de 300 euros de forfait pour un petit 2,50 euros. Mais c'est tellement mieux, et on n'est plus au Moyen-Âge, hein, un moujon moujonne, on n'est plus au Moyen-Âge. Hein, c'est la République, le progrès. Nous sommes au 21e siècle, cher Moujon. Donc voilà. Alors, les concessionnaires sont très contents. Très contents. Ils disent, oh, on n'a que des retours positifs. D'ailleurs, disent-ils, les gens payent très bien. 95% pour EFA, je crois. Un autre annonce 99% de paiement dans les 3 jours. Formidable. Moi, je ne sais pas si vous réalisez. 5%, quand on passe de 3 euros à 90 euros, qu'on multiplie par 30, hein, le forfait. Eh bien, j'ai envie de dire que 5% qui ne paie pas et qui se retrouve à 90 euros, je ne vous dis pas la culbute financière, et je pense que ce n'est pas notre ami Philippe Murer qui va me contredire, que 5% sur d'énormes masses financières, mais c'est un énorme bénéfice supplémentaire de la part de ces péagistes, de la part de ces rançonneurs, hein, qui rançonnent l'automobiliste de la façon la plus éhontée. On rappelle d'ailleurs, puisque je parlais d'Édouard Philippe tout à l'heure, avec le passage des 90 à 80 km/h, pour que les lecteurs se souviennent, si on peut espérer qu'ils se souviennent, qu'on se souvienne aussi, puisqu'on en fait un futur candidat à l'élection présidentielle, M. Dominique de Villepin est à l'origine de la vente nos autoroutes, hein, pour les fameux concessionnaires rançonneurs, voleurs, qui rançonnent l'automobiliste. Donc ça, c'était quand même un point qu'il fallait, à mon avis, ajouter à ce sujet. Vous en pensez quoi, Lara et après Philippe ?
Déjà, je rajoute que ça veut dire aussi la surveillance absolue, cher Nicolas, parce que avant, Se déplacer, on était face à une machine pour appuyer sur le bouton, tirer son ticket, etc. Ce sera fini tout ça, on sera filmé, on saura où vous allez, quand vous y allez, avec qui, etc. Tout cela devient, en fait, c'est la main mise sur nos libertés, je pense, d'aller et venir. Et tout ça sous une forme de, encore une fois, progressisme, parce que effectivement, à côté, on nous parle du Moyen Âge, alors qu'aujourd'hui, on a supprimé les gens sur les postes d'autoroute. C'est plus que des machines, donc ça coûtera encore moins cher aux concessionnaires d'entretenir ces autoroutes, mais on le payera beaucoup plus cher. Donc, gling-gling, c'est toujours le même casino pour ces gens-là, casino gagnant.
Et puis les
avec huissiers, la surveillance en plus.
Les huissiers qui se frottent les pattes, évidemment, puisque pour eux, c'est 5%, c'est énorme. On se fout de nous, on dit 95%, c'est formidable qu'ils payent. Il y a 5% qui ne payent pas. Donc, une manne financière considérable des impayés du contentieux qui va être considérable. Hein.
Mais Nicolas, vous partez en vacances, vous payez votre autoroute, vos déplacements. Vous n'avez pas la tête à ça. Quand vous arrivez, vous prenez votre location, vous allez sur la plage. Ah ben non, vous avez 3 jours pour payer. Et bonjour, si vous l'avez raté. Donc, vos vacances seront foutues. Vous auriez pu prendre un billet d'avion à la place, hein, tellement l'écart est important. Mais voilà ce qu'on nous vend. Non, c'est insupportable. Mais moi, j'attire sur le…
Je pense qu'il y a peut-être eu un petit excès de vitesse, hein. Petit excès de vitesse qui va vous faire.
Voilà, et puis comme ça, votre budget vacances.
Pour bien débuter vos vacances.
Voilà, vous finirez votre budget vacances avec un bon crédit à consommation pour pouvoir rentrer chez vous. Voilà.
C'est formidable, c'est formidable. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ?
Je suis tout à fait d'accord avec Lara sur la surveillance. Ça, c'est vrai que c'est un vrai problème d'être surveillé. Et il faudrait arrêter d'accepter toutes les technologies quand ces technologies sont néfastes pour l'homme. Donc là, je pense que là-dessus, un État sérieux devrait l'interdire pour le problème de surveillance et pourrait l'interdire du fait que ça met une charge mentale sur les gens, comme vous le disiez justement, qui doivent penser à le payer dans les 3 jours et qu'en plus, ça crée des amendes. Voilà, un péage à 3 euros peut se transformer en 90 euros. Un État et un gouvernement qui se respectent, c'est un État qui protège les citoyens contre ce genre d'arnaque des multinationales. Voilà, c'est à ça que ça sert un État, vous voyez. Et là, l'État laisse faire absolument n'importe quoi. Il est main dans la main avec les multinationales et c'est scandaleux. Bon, bah, c'est l'État Macron, ça n'étonnera absolument personne.
Mais voilà, je vous prends, que ce soit cher Lara, cher Philippe, je vois que vous n'êtes pas au fait du progrès. Vous êtes aussi dans votre Moyen-Âge. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce qu'à la fin de l'article, qu'est-ce que nous dit ce bon journaliste qui trouve formidable le fait de ne plus faire de file d'attente, il n'y a plus de bouchons au péage? Il vous dit, ben, si vous n'êtes pas content, vous avez une charge justement morale ou psychologique ces 3 jours, vous n'avez qu'à installer une petite vignette sur votre pare-brise, hein. Et puis ça passera, et puis vous donnez votre RIB évidemment, hein. On sait bien ces RIB qui sont piratés, après comme ça les pirates vous volent, essaient de vous arnaquer, de vous prendre votre argent via votre banque, en disant vous devez tant ou des choses comme ça, hein, puisqu'on sait que on a appris dernièrement, tous les banques, la banque fédérale américaine a réuni l'ensemble des banquiers américains pour les alerter que les nouvelles IA, dont l'Olympique, sont des IA qui vont permettre de totalement voir toutes les failles des systèmes informatiques des grandes banques. Et donc, ils vont bientôt pouvoir rentrer tranquillement et nous soulager, alléger un peu nos comptes bancaires. Donc, moi, ce que je conseille, en effet, c'est la petite vignette. Bon, c'est une vignette, vous inquiétez pas. Ça, c'est vrai que c'est un tracas quand même d'être obligé de mettre une vignette sur un pare-brise. Bientôt, tout ça sera intégré à la petite puce sous-cutanée où vous aurez votre petit pass social. Hop, et on vous débitera tranquillement. Et d'ailleurs, on vous interdira de passer si vous n'avez pas le droit d'emprunter l'autoroute parce que vous êtes un mauvais citoyen. Hein, c'est le modèle du pass social à la chinoise. Ne vous inquiétez pas. Les gens qui disent « Oui, mais non, c'est la Chine, c'est pas la France. En France, c'est pas comme en Chine. » Tiens, mon œil. Hein, les Européens, plus encore, avec entre autres les GAFAM, etc. On va tout droit vers le pass social et on aura la petite puce sous-cutanée où on pourra vérifier en même temps votre vaccin, ça sera pour prendre le café à la terrasse. votre passage sur les autoroutes qui pourront être débitées comme tout le reste et nous vivrons dans le meilleur des mondes possible. Voilà, allez, on a gagné. Tout le monde est d'accord? La petite vignette, hein. On n'oublie pas Philippe. Sur sa voiture, on met sa petite vignette pour payer plus vite.
Le QR code.
Bon, tout le monde est d'accord?
Oui.
Philippe, d'accord?
Oui, tout à fait. C'est n'importe quoi. Mais c'est tout à fait juste. Hein. C'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, la puce, ce ne sera pas progressiste de la refuser. Cette puce sous la peau, c'est tellement pratique. Hein, c'est tellement pratique pour tout le monde qu'effectivement, il faudra l'accepter.
Il dira ouais. Comme un certain « Allons-y, quoi !»
Allons-y. Ah oui, j'ai bu mon café en terrasse. Allons-y, quoi. C'est ça, voilà. Ouais. Bon, bah, écoutez, merci à tous les deux. Ça va être l'heure du petit Bobino. Au revoir, Lara. Passez une bonne journée. Et puis, après le Bobino, on va continuer les entretiens avec Philippe Murer.
Au revoir, Nicolas. Au revoir, Philippe. Au revoir, mes chers auditeurs. À très bientôt.
Au revoir, Lara.
À bientôt.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous sommes de retour dans ce libre journal, de géopolitique profonde. Et après cette revue de presse, nous allons avoir eh bien, notre échange comme durant chaque émission, avec notre grand invité. Le grand invité du jour, c'est Philippe Murer, l'économiste, et nous allons revenir sur différents thèmes, en particulier sur le thème principal de cette émission, qui est la défaite de l'Occident, et peut-être aussi les conséquences économiques et financières de cette guerre. Selon vous, Philippe, comment expliquez-vous, certains journalistes disaient « je ne comprends pas pourquoi » Donald Trump a accepté ce plan en 10 points iranien qui est tout à l'avantage des Iraniens pour accepter un cessez-le-feu. Moi, l'impression que j'ai, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que Trump avait de plus en plus dans cette guerre une épée de Damoclès au-dessus de la tête et un risque de faillite financière considérable si cette guerre n'était pas arrêtée, entre autres du fait eh bien, du blocage du détroit d'Ormuz, de la destruction de la production, des raffinages. Quelle est, à votre avis, la raison qui a poussé Trump à accepter un cessez-le-feu?
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si Trump, le pétrole montait de plusieurs dollars par jour, et ce n'était pas de la spéculation, hein, parce que tous les spéculateurs ont été rincés par les allers-retours, les différentes déclarations. Et donc, c'était un crack financier et un crack économique qui se profilait si Trump ne proposait pas l'ouverture de négociations. Donc ça, c'est parfaitement juste. Alors, pourquoi il accepte l'ouverture des négociations et sur le programme en 10 points, en plus de l'Iran, qu'il a déclaré comme viable, c'est parce qu'il n'a pas le choix. S'il ne faisait rien, il avait l'Iran qui tenait le détroit d'Ormuz et qui pouvait provoquer un krach financier économique mondial, soit faire en sorte que le pétrole soit livré contre 2 millions de dollars de rançon, chaque pétrolier qui passe, et des cargaisons en yuan, donc c'était la fin du pétrodollar. Soit l'autre possibilité, c'était, donc ne rien faire, ce n'était pas une possibilité, les attaques au sol, j'en ai parlé, le problème des montagnes en Iran, le problème des 650 000 soldats, le problème de l'approvisionnement, parce que comment vous voulez faire une attaque au sol quand les bateaux américains sont à 1000 km des côtes de peur de prendre un missile ou un drone sur la tête, ce qui est le cas aujourd'hui. Ils se sont jamais rapprochés. Et puis, le problème du climat qui fait que le temps extrêmement chaud dans le golfe Persique rend impossible des troupes au sol. Donc, il n'y avait pas d'attaque au sol possible. Donc, la seule possibilité, c'était les négociations. Il n'y avait pas de choix pour Trump et c'est extrêmement dur parce que c'est le début de l'aveu d'un échec, quoi, très clairement.
Le début d'un aveu, d'un échec. Comment est-ce que vous pensez que Trump va pouvoir s'en sortir de ce bourbier? Est-ce qu'il va perdre la face? Comment continuer à concilier ses propos sur la victoire, la merveilleuse victoire, l'Iran défait, avec la réalité qui nous montre tout à fait autre chose?
C'est très compliqué, d'autant plus que les Américains, l'Américain moyen, était contre cette guerre, hein, à 60%. Il n'y avait qu'une petite partie qui soutenait cette guerre. Même dans le camp républicain, il y a beaucoup de gens qui ne soutenaient pas la guerre de Trump. Donc, ça va être très, très compliqué pour lui. Franchement, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils vont arriver à un accord où Trump va accepter les conditions de l'Iran, puisque que va lui proposer l'Iran pour tout débloquer, puisque c'est l'Iran qui a la main. Franchement, je n'en suis pas sûr, je ne suis sûr de rien. C'est l'intérêt des États-Unis de cesser cette guerre, c'est clair, mais moi je me suis trompé, parce que je pensais au bout d'une semaine qu'il serait clair pour les Américains qu'avec le détroit d'Ormuz bloqué, indébloquable, c'était dans leur intérêt de faire un accord de paix le plus vite possible. Il l'aurait fait au bout d'une semaine, ça aurait été beaucoup mieux. On aurait eu beaucoup moins cette sensation de défaite stratégique. Au bout de 6 semaines, c'est plus grave. J'espère qu'ils vont le faire, qu'ils vont être rationnels, mais ils ont montré qu'ils étaient irrationnels. Donc, je ne suis sûr absolument de rien. Pour Trump, ça va être très difficile, puisque tous les grands noms du mouvement MAGA, les Tucker Carlson, les Marjorie Taylor Greene, les Joe Rogan, etc., commencent à être contre lui et s'attaquent violemment à lui dans les médias alternatifs,
oui,
beaucoup de fois aux États-Unis. Ça, c'est le premier point. Il y aura un problème pour les midterms aussi. Maintenant, apparemment, les démocrates pourraient gagner les midterms et même gagner et le Sénat et la Chambre des représentants, ce qui serait extrêmement gênant pour lui. Et il y a un vrai risque d'impeachment sur Trump. Très clairement, il y a un vrai risque de déclenchement d'un impeachment sur Trump. Ça serait peut-être mieux pour le mouvement MAGA, parce que dans ce cas-là, ça serait J.D. Vance qui prendrait le pouvoir. Et comme J.D. Vance était pour la paix, ça pourrait porter de l'espoir pour le camp MAGA pour les élections présidentielles. Voilà ce qu'il en est. Mais tous les scénarios sont ouverts. Un impeachment de Trump après les élections de mi-terme, une défaite pour les mi-termes, ce qui est tout à fait possible. Voilà, parce qu'il y a quand même un risque de crise économique et financière qui est en train d'arriver, en plus. Il faut bien comprendre que si les États-Unis n'ont pas le même problème de croissance que la France, que l'Allemagne, que l'Europe, ils ont un problème d'inégalité sociale absolument gigantesque. C'est-à-dire, grosso modo, les 10% des Américains les plus riches en sortent et les 90 autres % ne s'en sortent pas. Alors, ce n'est même pas Philippe Murray qui vous le dit, c'est vous allez regarder les blogs de Wall Street comme Zero Hedge, des blogs suivis par l'ensemble de Wall Street, ils le disent eux-mêmes. C'est-à-dire que les Américains, les prix ont tellement augmenté en 20 ans aux États-Unis, les prix des maisons, mais aussi le prix de la vie quotidienne, que les Américains ne s'en sortent pas. Donc, la hausse des prix de l'énergie et l'inflation qui est en train d'arriver aux États-Unis est un problème majeur pour Trump pour les élections. On a eu les chiffres de l'inflation hier, ils ont augmenté de 0,9% sur un mois. Voilà, on est sur un rythme d'inflation, si ça continuait tous les mois, ce ne sera pas forcément le cas, hein. Ça serait 10,8% dans l'année. Vous voyez le problème qu'il y a pour Trump.
Ah, c'est un gros problème, hein, ce problème économique, sur lequel on va peut-être revenir d'ailleurs. Juste peut-être une question, selon vous, je ne vous ai pas entendu sur l'aspect, qu'est-ce qui a pu pousser Trump à déclencher cette guerre ?
Alors, il y a une possibilité, c'est qu'il sent que Trump, que la Chine est en train de prendre le contrôle, petit à petit, le pouvoir sur le monde. Il l'a vu dans les négociations qu'il a fait avec la Chine en octobre dernier, où la Chine lui a tordu la main parce qu'ils ont les matières premières stratégiques que sont les terres rares, le tungstène, et dont on a besoin l'armée américaine, et que les États-Unis ne sont pas capables de produire aujourd'hui. Devant ça, il y avait, après la victoire facile contre le Venezuela, où Trump a fait en sorte que le pétrole vénézuélien aille vers les États-Unis et plus vers les alliés, vers les BRICS et vers la Chine, eh bien, Trump s'est peut-être dit que contrôler le pétrole iranien, ça lui permettrait d'avoir plus la main sur la Chine. Donc ça, c'est une possibilité, l'arme du pétrole, pour avoir plus de pouvoir au niveau international et conserver la prédominance américaine face à la Chine. La deuxième chose, parce que tout cela est complètement irrationnel, et ce que disait Joe Kent, c'est la pression d'Israël. Alors pourquoi Israël a tant la main sur le gouvernement américain ? Évidemment qu'il y a le lobbying de l'AIPAC, mais à ce niveau-là, est-ce que Israël a des dossiers cachés ? Le Mossad a des dossiers cachés sur Trump qui pourraient mettre en difficulté Trump ? C'est une vraie possibilité. J'en sais rien, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux. D'ailleurs, Tucker Carlson, qui était très proche de Trump, a dit hier qu'effectivement, si Trump insultait tout le camp MAGA, Candace Owens, Megyn Kelly, etc., c'était probablement parce qu'il avait des pressions absolument insurmontables de la part d'Israël contre lui. Voilà, c'est une possibilité aussi, mais tout ça, ça montre aussi fondamentalement une forme de corruption gigantesque, parce que quand on a des dossiers contre vous, c'est qu'il y a une forme de corruption qu'on peut étaler au grand jour et une forme d'amateurisme complet du camp occidental. On le voit, nous, avec le gouvernement Macron, mais c'est dans tout le camp occidental qui est devenu un camp politique de la com, en fait, et pas du travail à long terme, et donc ces amateurismes, ces guerres absurdes, ces plans économiques absurdes, l'Europe qui se passe du pétrole russe et du gaz russe et qui se trouve pieds poings liés, voilà, c'est l'amateurisme. Nous n'avons pas des gens sérieux au pouvoir aujourd'hui en Occident.
Tout à fait. Chers auditeurs, vous êtes dans ce libre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie avec Philippe Murer et vous aurez tout à l'heure, bien sûr, les questions des auditeurs, elles sont nombreuses, vous êtes toujours au rendez-vous et nous en remercions, chers auditeurs. Ne vous inquiétez pas, continuez à envoyer vos questions. On va passer le dernier petit quart d'heure à répondre avec Philippe aux questions. Je rappelle aussi, on en fait la remarque, de rappeler la revue confidentielle de géopolitique profonde en avril 2026. Eh bien, c'est le réseau démasqué, justement, le réseau Epstein, au cœur de l'État profond, avec aussi un article sur l'Iran, vers la guerre mondiale, point d'interrogation. Donc c'est la revue, n'hésitez pas à venir nous rejoindre avec cette revue de géopolitique profonde, revue confidentielle. Voilà, c'est une façon d'aider, évidemment, géopolitique profonde. D'ailleurs, Epstein, sur tous ces éléments-là, on se rappelle, on voit en effet les passes d'armes redoutables actuellement entre Tucker Carlson, les Candace Owen et Trump. Alors avec d'ailleurs Trump qui s'est, moi qui m'a beaucoup fait rire, qui s'est un petit peu ridiculisé puisque il a voulu absolument essayer de battre froid Candace Owen en disant Candace Owen accuse bien à tort Brigitte Macron d'être un homme, ce n'est pas vrai, dit-il. Bon, alors là, bon, on sait qu'il avait un dossier sur les Macron qui était à Mar-a-Lago. Alors on se dit mince. Donc finalement, Brigitte est bien une femme. Mais alors, il se disqualifie lui-même, le malheureux Trump, en disant juste après, et d'ailleurs, Brigitte Macron est beaucoup plus belle que Candace Owen. Bon. Je veux bien Donald, hein, surtout que Donald aime bien quand même les femmes un petit peu plus jeunes, même beaucoup plus jeunes que lui, hein, sans même tomber dans la diffamation par rapport à l'affaire Epstein. On ne peut pas dire que Melania soit une mamie, hein, donc bon, on ne sait pas, peut-être qu'à force de s'opposer à Emmanuel Macron, il a fini par un petit peu comme dans un phénomène de miroir. Apprécier les goûts de gérontophile de notre cher président. Hein, donc voilà, Brigitte et il faut dire, les plus belles jambes de Paris. C'est plus beau, c'est mieux que Candace Owen. Bon, moi, Candace Owen, elle est quand même pas vilaine. On peut pas dire le contraire, hein, Philippe.
Non. Non, elle est charmante et en plus profondément intelligente. Il l'a traité de QI zéro. Oui. Bon, Trump, il est dans une rage de toute manière avec ce problème de cette perte de la guerre, de cette défaite stratégique. Donc, il raconte absolument n'importe quoi. On a été des soutiens de Trump parce qu'ils avaient promis de mettre un terme aux guerres de l'Empire américain, ce qui est un intérêt évidemment pour le monde entier et pour les Français notamment. Et il avait promis de sortir les dossiers Epstein. C'était une forme de moralisation de la vie publique mondiale avec cette hyperclasse mondialisée. Il avait promis que c'était l'Amérique d'abord et de montrer l'exemple. Bon, finalement, il n'a tenu aucune de cette promesse et il est plus que décevant, effectivement, Trump. Et si on continue comme ça avec des dirigeants qui font n'importe quoi, en fait, c'est la démocratie, tout simplement, qui va passer de mode. C'est la démocratie, si on continue. Il faut qu'il y ait des dirigeants qui relèvent le gant et qui servent le peuple et qui tiennent leurs promesses et qui soient dans la probité morale, ça me semble fondamental. Sinon, c'est la démocratie qui va disparaître. Parce que la démocratie, pour avoir des dirigeants qui font exactement l'inverse de ce qu'ils promettent, qui ne défendent pas leur peuple, ça n'a aucun sens.
Tout à fait. Alors, Philippe Murer, je vais un peu m'adresser à l'économiste. Je rappelle, vous êtes le cofondateur du mouvement politique citoyen, le MPC, Philippe Murer. mais vous êtes aussi un économiste. Et en tant qu'économiste, j'aimerais que vous nous évaluiez la situation économique et financière. Certes, les cessez-le-feu, certes, Trump calme un petit peu le jeu, mais le détroit d'Ormuz n'est pas réouvert, hein, contrairement à ce qu'on prétend. Donc vous avez toujours des milliers de bateaux qui sont bloqués, le trafic qui ne se passe pas mieux, peut-être à nouveau des bombardements demain. Donc, ce qui n'arrangerait pas la situation. Quelles sont les conséquences déjà de ce qui s'est passé? Et vous l'avez déjà en partie exprimé avec l'inflation. Quels sont, à votre avis, les risques financiers mondiaux que font peser cette crise sur l'économie mondiale?
Il y a deux grands scénarios. Soit ces négociations, elles aboutissent et la guerre se termine dans quelques jours. Et tout rouvre, le détroit d'Ormuz rouvre et on reconstruit les infrastructures, ou celui où la guerre continue, il y a des troupes au sol, il y a d'autres infrastructures énergétiques et peut-être les puits de pétrole d'Arabie Saoudite qui seront bombardés et les champs de gaz naturel de l'Iran ou du Qatar. Donc, et ça sera probablement le cas si la guerre continue. Donc dans le premier scénario, on va avoir des problèmes au moins pendant un an avec une énergie qui va monter de façon qui va continuer à monter ou qui va tenir à un niveau très haut, puisque les puits de pétrole ont été fermés, à part ceux d'Arabie Saoudite où le pétrole peut être évacué en mer Rouge, mais les autres puits de pétrole sont fermés. La majorité des puits de pétrole sont fermés. Pour les rouvrir, c'est comme des raffineries, il faut plusieurs mois. Donc voilà. Donc on va avoir un temps d'abord de déblocage très long de la situation. On a des actifs très importants, comme les raffineries du Golfe, les raffineries géantes du Golfe qui fournissaient de l'essence et du diesel au monde entier, qui sont détruites, énormément de raffineries. On a d'autres problèmes avec les engrais qui ne sont pas passés pendant des mois, et c'est le moment où les engrais doivent être utilisés. Donc, dans quelques semaines, ça sera trop tard. On pourrait avoir une forte hausse de l'alimentation, on aura une forte hausse de l'alimentation, et possiblement une crise alimentaire mondiale. Et puis, un autre problème aussi sur l'hélium, qui représente 30% de l'hélium mondial qui est exporté depuis le Golfe Persique, et qui est utilisé pour les puces notamment, avec des pénuries possibles de puces à terme si cet hélium ne passait pas. On a le problème de l'acide sulfurique aussi qui rentre dans tout un tas de chaînes très précises et qui pourraient bloquer des parties des chaînes de valeur mondiales. Vous voyez, donc cette mondialisation se retourne contre nous avec ce problème du Golfe Persique qui est fermé. Donc on a une forte inflation, très clairement, une récession qui est tout à fait possible parce que les effets vont être importants en termes économiques et on aura aussi ces effets financiers qui vont arriver. Mais si la guerre continue, dans ce cas-là, on passe dans un scénario qui est là, qui commence à devenir franchement apocalyptique, hein, sans vouloir faire le Dr Doom. Ah ben oui, parce que 20% du pétrole bloqué, 20% du gaz naturel bloqué, plus l'hélium, plus les engrais, etc., ça passe pour un mois et demi. Mais si c'est bloqué pendant encore deux mois, si en plus les infrastructures sont détruites, parce que si la guerre continue, on a vu que cette guerre, c'était une guerre de destruction. Les Américains et les Israéliens bombardaient des infrastructures, des aciéries, des raffineries en Iran, et l'Iran bombardait dans le Golfe. Donc il est presque certain que si la guerre continue, on aura des destructions encore beaucoup plus fortes, et peut-être des puits de pétrole, des actifs majeurs. Et là, on rentre dans un problème gravissime, parce que si le monde doit se passer de 20% du pétrole mondial, ça veut dire qu'on a un pétrole qui monte à 200-300 dollars le baril, pour détruire de la demande. Il faut détruire 20% de la demande, que les gens ne puissent plus s'acheter de l'essence pour que la consommation d'essence mondiale, par exemple, baisse de 20%. Donc là, on rentre dans quelque chose de gravissime, dans une crise économique et financière qui serait absolument gravissime, parce que comme les États-Unis sont depuis 17 ans, il faut quand même se rappeler qu'en 2009, le Nasdaq valait 1000, aujourd'hui, il vaut 27 000.
Oui. Hein,
que le marché américain, le S&P 500, valait 600, le grand marché américain, et il vaut aujourd'hui pratiquement 7000. Donc, on a eu une bulle financière américaine, on a eu des taux très très bas à 0%, donc de la dette privée et publique dans les placards partout, des produits financiers compliqués. Donc, il est très possible que la crise économique déclenche une crise financière un peu comme en 2008. Il y a un risque réel et c'est peut-être pour ça que Warren Buffett d'ailleurs a mis des centaines de milliards, le légendaire investisseur américain a mis des centaines de milliards, il n'y a jamais eu autant de cash disponible et jamais aussi peu été investi dans les actions, c'est très probablement pour ça, c'est que les risques sont absolument gigantesque.
Est-ce qu'il y a un risque aussi sur les marchés obligataires? Parce qu'on a envie de dire que par rapport au choc pétrolier des années 70, c'était un monde qui était très peu endetté. On a aujourd'hui des dettes considérables en plus.
Alors, c'est clair. Ceci dit, normalement, la Banque centrale peut gérer ça, mais elle ne le peut plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a des dettes très importantes. On a une inflation qui va augmenter, un peu ou énormément, selon que la guerre continue ou pas. Ça, c'est pas bon pour les obligations d'État et la dette d'État, donc les taux vont augmenter. Avec ça, ça posera des problèmes au marché immobilier, bien entendu. Mais de toute manière, les États ont de telles dettes publiques qu'ils vont devoir laisser faire partir l'inflation. Ils vont devoir... C'est l'intérêt de tous les États du monde, parce qu'il n'y a pas que l'Occident qui est endetté, la Chine est très endettée aussi. C'est l'intérêt de tous les États du monde, en fait, de faire partir l'inflation pour que l'inflation ronge naturellement la dette publique. Parce que l'inflation, c'est ça qui fait baisser la dette publique de façon assez facile en gérant les paramètres. Donc, on rentre probablement dans un monde beaucoup plus inflationniste qu'on a eu précédemment. C'est une telle tentation pour les chefs d'État de laisser ronger l'inflation, la dette par l'inflation.
Mais oui, bien évidemment. Qu'est-ce que vous répondez, comment réagissez-vous à tous ces oiseaux de mauvais augure qui nous expliquent que les prix de l'essence, donc qui sont montés très très vite, le cornu exige qu'ils baissent aussi vite, on en est loin, eh bien, ne redescendront pas à une situation hantée, guerre au Proche-Orient. Comment expliquer? On peut expliquer ça?
Bon, alors, rappelons une petite chose, c'est que le gouvernement Macron est responsable de 7 centimes de la hausse de l'essence. C'est 7 centimes qu'il a mis de taxes au 1er janvier pour faire des qui est derrière mis dans une cagnotte pour faire de l'efficacité énergétique. Donc, on a piqué 7 centimes de taxes de plus. Sachez d'ailleurs, les Français, qu'il y a 20 centimes, grosso modo, 25 centimes de taxes globales là-dessus. Il y en avait 18, il en a rajouté 7 centimes.
Donc, alors, là, c'est quoi l'efficacité énergétique? C'est les moulins à vent, c'est les éoliennes?
Non, c'est aller économiser de l'électricité dans les, par exemple, pour les hypermarchés Auchan. Voilà. Les Français sponsorisent avec des taxes sur l'essence pour des entreprises qui, derrière, vont faire de l'efficacité énergétique. Donc, des grandes entreprises qui vont essayer de consommer moins d'électricité. C'est incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, Nicolas, ils disent il n'y a pas de sous pour baisser les taxes sur l'essence qui sont quand même délirantes en France, oui, et dont les ménages et les entreprises ont besoin, parce que si on détruit encore, après les 70 000 entreprises de l'année dernière, si on en détruit encore par la hausse des prix de l'essence, parlons par exemple de nos pêcheurs. C'est un problème économique, mais c'est aussi un problème affectif. On a envie de conserver des pêcheurs en France. On les détruit avec ces prix de l'essence, du gasoil. Les agriculteurs, les artisans qui ont besoin de beaucoup se déplacer. Voilà, ils sont en train de mettre 10 milliards d'euros pour l'électrification, alors qu'il n'y a pas un euro à mettre pour baisser les taxes sur l'essence, dont ils profitent, puisqu'on a su, le gouvernement a reconnu qu'il avait gagné 300 millions d'euros en plus en mars, grâce à la hausse des prix du pétrole. Voilà, donc on est dans un gouvernement qui est complètement scandaleux, qui devrait protéger les Français, qui devrait protéger les entreprises qui sont des organisations fondamentales pour l'économie française et pour les Français, et qui malheureusement ne fait rien à part se relancer dans les programmes de l'Union européenne d'électrification. Moi, je suis pas contre ces programmes-là, mais faits de façon intelligente, de façon sensée, de façon planifiée, et pour que ça amène à acheter des produits français. Si c'est pour faire de l'électrification et acheter des véhicules électriques chinois, ça n'a pas de sens, évidemment.
Oui, sans parler du fait qu'il n'y a pas d'argent pour l'automobiliste français à la pompe. Par contre, les milliards pour l'Ukraine, là, par contre, cet argent, on le trouve miraculeusement, mais c'est pour le bien, puisque c'est pour la guerre. Le colonel Soja, vous savez, notre chef d'état-major, le général Mandon, le Soja, était encore dans les affres de l'angoisse, nous a-t-il dit hier ou avant-hier, parce qu'il disait ce qui était sa plus grande crainte. Demain, c'était une guerre contre la Russie, évidemment.
Je me permets, Nicolas. Oui. Ça, c'est vraiment extrêmement inquiétant, parce qu'il y a encore Mandon qui nous parle de la guerre contre la Russie qui vient, alors qu'on a un problème gigantesque au Moyen-Orient. Il y a le chef de l'armée de l'air anglais qui a expliqué qu'il fallait préparer toute l'Angleterre à faire la guerre, les hôpitaux, les infrastructures, les entreprises. Il y a l'Allemagne qui avait fait une loi, ils sont revenus dessus, il y a qu'à commencer à présenter une loi pour dire que les jeunes Allemands ne pourraient pas partir sans demander l'autorisation de l'armée. Mais ils sont en train de nous mettre dans un phénomène de guerre, quoi, de guerre. Alors que, alors, la guerre, s'il faut la faire, vous avez un ennemi implacable et un ennemi extrêmement dangereux à vos portes, oui. Mais évidemment que nous n'avons pas d'ennemis implacables à nos portes et que cette guerre n'est pas à faire, quoi. Ce qu'il faut faire, c'est arrêter de faire la guerre au peuple, surtout, arrêter de faire la guerre à la Russie et reconstruire notre économie, reconstruire la prospérité, reconstruire tout simplement l'Occident qui est en train de partir en quenouille.
Certainement. Qu'est-ce que. Alors, on va bien, chers auditeurs, hein, vous êtes dans le journal de Géopolitique Profonde sur Radio Courtoisie, et dans à peine quelques minutes, nous allons procéder à la lecture de vos questions et remarques sur justement cette défaite de l'Occident. Est-ce que vous pensez finalement, mon cher Philippe, que nous assistons à la suite de ce basculement du monde que nous avions un petit peu connu avec les réunions, les multiples réunions des BRICS, que finalement, eh bien, dans cette espèce de conflit Nord-Sud, l'Occident est en train de perdre cette guerre et que la guerre contre l'Iran est un phénomène de bascule qui fait que le monde de demain, quoi qu'il arrive, sera différent du monde que nous avons connu et que l'Occident doit admettre sa défaite et l'émergence nécessaire d'un monde multipolaire. Pensez-vous que nous irons nécessairement vers cela ou craignez-vous éventuellement que l'Occident, que l'Empire américain se cabre, se braque et soit prêt à tout jusqu'à des frappes nucléaires pour conserver l'hégémonie mondiale ?
J'espère que ça ne sera pas le cas. Franchement, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas le dire.
Ouais.
Par contre, ce que je sais, c'est qu'il faut accepter cette émergence d'un monde qui est multipolaire, de nations libres et souveraines, parce que de toute manière, il y advient. Et c'est assez simple à comprendre, Nicolas. La dernière fois, j'ai fait une conférence et je travaillais sur le sujet. Et je regardais, en 1990, les États-Unis et les économies qui sont les alliés occidentaux, Japon, Corée du Sud et toute l'Europe, ça représentait grosso modo 80% de l'économie mondiale. Aujourd'hui, on représente à peine la moitié de l'économie mondiale et les BRICS, etc., l'autre moitié, le Sud global. Donc, on voit qu'il y a eu un rééquilibrage et il faut l'accepter. Ce rééquilibrage a été fait notamment de façon accélérée, trop rapide par la mondialisation économique voulue par les Américains, mais il faut l'accepter, ce rééquilibrage. Il faut faire une place à la Chine, à la Russie et à tous les autres pays du monde pour une organisation du monde multipolaire, ça me semble fondamental. En revanche, moi, je pondérerais cela de plusieurs choses. Il y a un problème global, démographique, mondial, qui est gravissime et qui est sans doute encore plus important que les problèmes économiques, les problèmes militaires dont on parle. C'est-à-dire qu'il y a un effondrement démographique mondial. La Chine, il y a moins d'un enfant par femme. Ils perdent, alors ils disent qu'ils perdent 3 millions d'habitants par an. Je pense qu'ils sont plutôt à 20 ou 30. Mais la Chine a l'habitude de truquer toutes ces statistiques. Ça, tout le monde le sait. Tous les économistes le savent. Et même le gouvernement français en parle dans certains documents. Donc, on a la Chine qui va perdre la moitié de sa population active dans les 25 ans. C'est quelque chose d'énorme. Taïwan est à 0,9 ou 0,8 de taux de fécondité par femme, 0,8 à 0,9 enfants par femme. La Corée du Sud, 0,7. On a un problème en Asie, on a un problème en Europe aussi. Même la France, qui était un des pays d'Occident riches qui tenait le plus, on est à 1,5, 1,6 enfants par femme. Donc ça, c'est un enjeu majeur qui va poser des problèmes majeurs au monde. Donc il faut redresser là-bas, en tout cas pour ce qui concerne la France, faire en sorte que les gens puissent et fassent des enfants, c'est fondamental. Sinon, on aura des générations de très vieux qui devront être nourris par des générations très petites de jeunes, et ça sera quasiment ingérable. Il faut comprendre l'ampleur du désastre en Corée du Sud. On a 7 grands-parents, un petit enfant. Vous imaginez le désastre. Comment ils vont faire ? La Corée du Sud sera probablement forcée par ce phénomène à faire la fusion avec la Corée du Nord, qui n'a pas le même problème, comme l'Allemagne avait fait avec la RDA. Ça sera obligatoire, sinon ça sera l'effondrement complet de la Corée du Sud, qui pour autant a plein d'acquis économiques, mais ne peut pas tenir quand vous avez 7 grands-parents pour un petit enfant. Donc il y a ce problème démographique mondial qui est un choc partout, qui va énormément affecter la Chine, qui va avoir de graves problèmes économiques à cause de ça. Les robots ne remplaceront pas tout, ça c'est clair. L'autre problème, c'est que ça crée une nécrose dans la société, très clairement, parce que quand vous avez un poids disproportionné des personnes âgées contre les jeunes, ça crée une société très nécrosée. Donc ça, c'est le risque pour la Chine. Donc ils ont quelques années encore pas mauvaises devant eux, mais ils ont un avenir difficile. Donc vous voyez, il y a un problème. Voilà, c'est aussi une chance pour la France. C'est-à-dire que, heureusement, la Chine ne va pas si bien que ça, l'Asie ne va pas si bien que ça. Donc, on a aussi quelque chose à jouer là-dedans. C'est fondamental. Et la France et l'Europe en général, l'Occident en général, est entre carré et scylla. Parce que entre l'Empire américain déclinant, qui devient extrêmement dangereux sur le plan militaire, et l'Empire chinois qui va tout détruire industriellement en Occident et après ailleurs, il y a un risque gigantesque. Alors, et je n'exagère pas, il y a un article là, de presse qui est sorti sur de la presse officielle du PDG de Toyota, l'ancien PDG de Toyota, le nouveau PDG de Honda, qui disent que, de toute manière, Toyota et Honda vont être détruits par les véhicules électriques chinois. Ils n'ont aucune chance, vous voyez, Nicolas. Donc, la Chine a fait en sorte d'avoir une monnaie qui est deux fois moins chère qu'elle devrait, ce qui fait qu'elle peut vendre tous les produits industriels deux fois moins cher que les autres pays. Et il y a un problème gigantesque là-dessus. Donc, le monde a à faire face à deux choses, l'empire militaire américain et l'empire industriel chinois qui veut tout dévorer. Et la France doit être non alignée pour se battre contre les deux et pouvoir vivre. Elle a le droit de vivre industriellement face à la Chine. Elle a le droit de vivre face aux États-Unis qui sont assez dangereux quand même sur le point de vue militaire.
Très bien, merci pour toutes ces analyses passionnantes, Philippe Murer, cofondateur du mouvement politique citoyen. C'est le moment, il reste une grosse dizaine de minutes déjà. Eh bien, nous allons débuter, c'est notre collaborateur, celui que l'on ne cite pas et qu'on ne remercie pas assez dans cette émission et qui nous gratifie toujours lors de chaque direct des livres journaux de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie, c'est Michel Dumas. Michel Dumas et son fameux 4-1 de Michel Dumas qui nous est livré et que je vais tout de suite vous lire. Michel Dumas, ne pensons pas trop que faiblit l'Occident, bouge encore Oncle Sam, malgré lourds accidents. Qu'adevienne la mûre ère où Satan trucidant, Christ rédempteur glorieux, béni bon dissident. Merci pour la bénédiction, cher Michel Dumas, qui en plus nous gratifie toujours d'un magnifique, malheureusement on ne peut pas le voir à la radio, toujours un magnifique dessin, où là on voit en effet Trump avec Mélania et Trump en Moïse, avec les décrets signés. C'est vrai que alors là, la signature de Trump sur ses décrets, quand il les montre, ça remplit la page entière. Donc là, on a les 10 commandements d'un Trump Moïse. C'est absolument extraordinaire, avec les derniers décrets. Ne vendons pas la peau de l'oncle Sam avant de l'avoir tué. Je pense que ça, vous êtes d'accord avec ça, Philippe.
Oui, bien sûr. Non, l'Amérique conserve une vraie dynamique, je veux dire, dans les nouvelles technologies immatériel, beaucoup moins dans les technologies matérielles. Donc l'Amérique reste puissante. Maintenant, est-ce que l'Amérique va sortir de ses propres démons et accepter d'être une nation comme une autre, une nation très puissante, mais pas l'empire qui domine le monde? C'est toute la problématique.
Exactement, exactement. Alors, un auditeur, bonjour à vous tous. Mais pourquoi les Yankees n'ont-ils pas utilisé l'arme nucléaire pour détruire la civilisation? C'était cela qui était prévu. Je crois que Poutine a dit à camarades depuis 1945, elle n'a pas servi. Blocus de Berlin, Corée, Hongrie, le mur, Cuba, Tchécoslovaquie, guerre des étoiles, Yougoslavie, etc. Alors tu décroches les missiles nucléaires de tes avions et tu les remises dans la cale, sinon quand les avions reviennent, ils retrouvent leur porte-avions au fond de la mer. Bon, on les a vus à ces news européens privés de leur apocalypse de l'Iran tant attendu. Et finalement, c'est le mot de la fin de notre auditeur, François Martin a eu raison. Donc François Martin, évidemment, le géopolitologue que nous avons assez souvent sur Géopolitique Profonde et dans ses livres journaux aussi de Géopolitique Profonde. C'est vrai qu'entre les missiles hypersoniques et puis les frappes nucléaires, c'était un risque, cette frappe, des frappes nucléaires sur l'Iran.
Ah ben c'est sûr que vu le niveau d'irrationalité, vu le niveau de messianisme aussi qu'on voit autour de Trump avec Paula White qui ouais, expliquait qu'il y avait pendant 9 fois qu'il fallait strike, taper et vous allez gagner, on pouvait avoir peur du pire et du nucléaire, vu aussi le délire de Netanyahou, hein, je veux dire, qui est devenu d'une agressivité avec Israël, qui est devenu une agressivité militaire absolument folle, le risque nucléaire existait pour la première fois depuis très très longtemps. Heureusement, personne ne l'a dégainé, parce que de toute manière, s'il y a une guerre nucléaire, tout le monde va y perdre, évidemment.
Bien sûr. Un auditeur, bonjour, merci pour cette émission très intéressante. Et pensez-vous que Donald Trump a lancé ses attaques contre l'Iran pour faire vendre des voitures électriques, des Tesla? Quant à Paris, c'est foutu. Ça, c'est un peu les commentaires de... Sur,
Alors, il n'a pas tort. En fait, l'industrie automobile chinoise électrique était vraiment dans la panade, avec une baisse très très forte des ventes électriques. Et grâce à la guerre et à l'explosion du prix du pétrole, ils ont doublé leurs exportations au mois de mars. Donc effectivement, Trump a bien servi les Chinois, il a bien servi les Russes aussi, puisque maintenant ils sont exemptés de sanctions sur leur pétrole. Donc en fait, tous les ennemis des États-Unis en fait, ont été bien gagnants dans cette guerre.
Un auditeur, cher Nicolas, le périphérique à 30 km/h au secours les cinglés et ils se disent écolos. Le maire, comme Hidalgo, ne sait pas qu'à 30 km/h, on pollue trois fois plus qu'à 90 km/h. C'est mathématique, quelle nullité et quel menteur. Donc là, c'est une réaction par rapport aux 30 km/h sur le périphérique.
En fait, c'est épuisant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, mais... Entre ces folies guerrières qui font exploser le prix du pétrole, qui mettent en difficulté les gens, ces délires bureaucratiques de mettre la circulation à 30 km/h, de barricader les villes. Oui, et puis pareil, les déclarations de Le Cornu, que 2/3 de voitures électriques en 2030, alors que les gens n'ont même plus les moyens d'entretenir leur voiture, quoi, et de s'acheter déjà des véhicules thermiques qui sont quand même beaucoup moins chers. Voilà, on n'en peut plus de ces gouvernements qui sont contre le peuple et qui nous matraquent, qui sidèrent le peuple. Vraiment, on a besoin de gens sains, qui aiment. C'est pour ça que Orban, dès qu'on parle d'Orban sur les réseaux sociaux, en fait, ça fait les Français retweetent parce qu'ils rêveraient d'avoir un gouvernement qui serait à leur service et qui leur dise je vous aime, en fait, Français, et qui leur prouve qu'ils les aiment par leurs actions. On rêve de ça, effectivement, parce que ça devient insupportable. Et là-dessus, j'ai envie de dire un mot. La responsabilité des souverainistes de ne pas s'allier toujours, on n'arrive pas à s'allier. Moi, je me bats pour ça, mais il faut s'allier pour cette élection présidentielle. Il n'y a que par la sortie de l'Union européenne, on le sait maintenant qu'on s'en sortira. Voilà, Jean-Jouin, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Jean-Frédéric Poisson, Pierre-Yves Rougeron, qu'on s'allie tous pour cette élection présidentielle, parce que c'est bien de discuter, de se désespérer, mais il y a un moment donné, je crois que le moment, les Français ont besoin d'un moment d'action politique et de pouvoir y croire à nouveau et de se battre à nouveau, mais pour gagner.
Jean-Frédéric Poisson, que j'aurai ce soir à 19h sur la chaîne YouTube de Géopolitique Profonde, sur son dernier livre qui vient de sortir, qui est « La dictature du bien » aux éditions du Verbe Haut. Voilà, Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti chrétien-démocrate. Voilà, vous êtes entre présidents, je dirais.
Vous le saluerez de ma part parce qu'il est extrêmement sympathique en plus, Jean-Frédéric. Et c'est un de ceux qui a toujours fait le plus pour l'Union, qui a toujours le plus mis son ego de côté pour faire l'Union des souverainistes pour les élections.
Oui, c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui a cette capacité à mettre son ego personnel de côté. Hein. On sent que c'est quelqu'un qui applique la sagesse philosophique, c'est un philosophe hein, à l'origine, on le rappelle. Un auditeur qui va dans le sens du ras-le-bol, justement. Bonjour, merci pour cette émission intéressante, mais je constate que Poutine, ni victoire ni défaite, et Trump, ni victoire ni défaite. Bref, tout est fait pour nous prendre de l'argent, financer l'Ukraine et prix de l'essence suite aux attaques de Trump sur l'Iran. Et en 2027, la totale victoire d'Édouard Philippe.
On va espérer qu'ils vont quand même. On va espérer que les Français ne se feront pas prendre par Édouard Philippe, l'homme de la fermeture de Fessenheim, l'homme qui a éborgné les gilets jaunes, l'homme des 80 km/h, du début du confinement Covid, qui a donné le Rivotril. On espère que les Français quand même vont pas se faire prendre au piège d'Édouard Philippe.
Mais d'Édouard Philippe et puis du système, hein, qui l'a vraiment, qui l'a coopté. C'est lui le candidat, hein, on le
C'est
voit.
vrai, et ça montre la faiblesse du système. C'est-à-dire que le système ne peut plus présenter. Vous voyez, dans les années 2000, on avait deux candidats, par exemple Sarkozy contre Ségolène Royal, ils faisaient chacun 30% au premier tour, voire au-delà de 30%. Maintenant, il leur faut un candidat et quasiment tout le monde va pousser Édouard Philippe. Bon, je pense qu'il y aura quand même un petit cheval en plus qui sera Raphaël Glucksmann côté gauche, côté PS, au cas où le cheval Édouard Philippe avait un problème et se prenait les pieds dans le tapis. Mais vraiment, ils sont pratiquement. Je pense qu'il n'y aura pas de candidature LR à la présidentielle. Sinon, Édouard Philippe et LR s'élimineraient les uns les autres. Donc on voit que le système est extrêmement faible. Simplement, il faut le finir, il faut l'abattre, il faut mettre le dernier coup pour que ce système soit abattu et que les Français puissent se relever.
Vous avez parfaitement raison, c'est Édouard Philippe qui a deux roues de secours, à mon avis, en effet, au cas où il flanche, ou par exemple les investigations. Ça m'étonnerait, hein, le parquet financier n'est pas indépendant, ça se saurait, et il a quelques soucis d'adjudication de marché, d'immobilier, dans cette bonne ville du Havre, Édouard Philippe. Je doute fort que ça aboutisse, mais si en effet il flanchait dans les sondages, pour une raison ou pour une autre, le fantomas de la ville du Havre. Il y a, à mon avis, deux roues de secours. Vous avez en effet le traître Glucksmann, agent de la CIA, s'il en est, l'ancien collaborateur de Chakasvili, on le sait, en Géorgie, les révolutions de couleur. Il était là aussi au Maïdan, il était là sur la première révolution de couleur en Ukraine. Il est dans tous les mauvais coups. Raphaël Glucksmann, le digne fils de son père, ou indigne fils de son père. Et puis l'autre roue de secours, faut pas l'oublier, c'est Retailleau, la fausse droite, la trahison Retailleau, qui espère que demain les courbes se croiseront entre Édouard Philippe et lui, ce qui est une autre manière de dire qu'il est aussi frelaté que peut être Édouard Philippe. Moi, je dénonce, et j'ai toujours dénoncé, l'imposture Retailleau, qui est complète. Ce type est un individu, à mon avis, qui, que ce soit Glucksmann, de Glucksmann à Retailleau, cette alliance de la droite et du centre, comme il l'appelle, voire jusqu'au Parti socialiste, eh bien, est une immense imposture. C'est ça le vrai bloc central qui dirige la France depuis 50 ans et qui nous mène tout droit à la faillite.
D'ailleurs, Nicolas, si Retailleau avait un petit peu d'intelligence et un peu de courage, quand il était ministre de l'Intérieur, il aurait pu faire une loi, vous voyez, très simple, une loi sur le squat. Les Français n'en peuvent plus de ces squats, de ces gens qui se font piquer leurs propriétés. Franchement, il pouvait proposer cette loi sur le squat et deux possibilités. Soit Macron lui disait non, c'est pas possible de la faire et il pouvait démissionner. Et à ce moment-là, les Français auraient bien vu qu'il avait un peu de courage, soit Macron l'a accepté de la faire et c'était bénéfique pour Retailleau. Mais au minimum, une loi sur des choses comme ça. Il n'a rien fait en tant que ministre de l'Intérieur à part parler et dire qu'il fallait sanctionner, il fallait être sérieux, il fallait reprendre en main les choses. Simplement, il avait la main sur les choses en tant que ministre et il n'en a strictement rien fait, quoi. Donc effectivement, c'est un imposteur absolument complet.
Tout à fait. Merci Philippe Murer. Cette émission va s'achever. Il y avait une question d'une auditrice sur la loi, ou plutôt une observation sur la loi. Yadan qui dit 600 000 signatures. Waouh! Mais bien, cette pétition va servir la communauté et lui permettre de dire, voyez, la France est antisémite. Donc, on va faire la loi. Bon. Et cet auditeur qui dit pas tout à fait d'accord avec la position de Philippe Murer. La surveillance progrès technique est néfaste si elle s'adresse aux honnêtes gens, mais si elle permet d'arrêter les assassins, les violeurs, les dealers, alors je suis pour la surveillance. Je pourrais résumer. Bon. Merci Philippe. Bon, voilà, de toute façon, cette émission s'achève. Merci beaucoup. Passionnante émission. Vous nous avez régalé, que ce soit Lara ou que ce soit vous, Philippe. Merci beaucoup. Encore merci à Virginie. Merci aux bénévoles qui étaient eh bien, au standard. Certainement Patrice et Sylvie, je l'espère en tous les cas. Je vous souhaite à tous une excellente journée sur Radio Courtoisie. Je vous dis à la semaine prochaine sur Radio Courtoisie, bien sûr. En tout cas, samedi matin à 9h pour un libre journal de géopolitique profonde. Merci à vous, merci Philippe.
Vous venez d'entendre Géopolitique profonde dirigée par Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 11 avril 2026 de 9h à 10h30 et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.